Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h07, vous êtes de retour dans les grandes gueules du sport ce matin. Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Simon Dutin, David Douillet, mais on va y ajouter un guest. Roland Courbis est avec nous, salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Salut coach.
Salut coach.
Dans un instant,
salut. Ça va.
Le bras de fer des GG, on va parler de Kylian Mbappé. Est-ce que c'est un frein pour l'équipe de France lors de 7 euros? Il y aura également dans 7 heures à 10h30 la punchline des GG qui est signée Giovanni Mpechi Pericard, le jeune français qualifié pour les 8e de finale de Wimbledon, qui semble alors parfaitement gérer sa récente notoriété. Est-ce qu'il faut s'enflammer? Voilà la question qu'on vous posera. Et puis à 11h, notre débat sur le Tour de France, puisqu'on a eu le droit encore une fois à une étape assez calme hier, une de plus cette semaine. Est-ce que le début du Tour de France vous ennuie? Christophe Cessieux nous rejoindra. Et puis on vous offre dans les grandes gueules du sport votre place pour la finale de l'Euro 2024, avec peut-être donc, si tout se passe bien mardi, la France en finale à Berlin le 14 juillet prochain, pour vivre l'expérience RMC, le voyage à Berlin, la rencontre avec les équipes RMC avant cette finale, et vos deux places pour le match le 14 juillet à 21h. Dès que vous entendez ceci, dès que vous entendez ce petit coq, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16, Euro au 7-32-16, une alerte qui peut tomber à tout moment pendant les grandes gueules du sport, donc restez bien à l'écoute.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame?
Kylian Mbappé qui traverse 7 euros comme une ombre entre son masque qui le gêne, sa forme incertaine, des déclarations en conférence de presse aussi qui peuvent gêner ses coéquipiers. On peut se poser la question, Mbappé est-il un frein pour l'équipe de France lors de 7 euros? Dans le coin droit, on va retrouver la team, c'est pas un frein, composé de Sarah Pitkowski, David Douillet et Fred Weiss. Dans le coin gauche,
il y a du poids dans le coin droit.
La team, c'est un frein. Vous l'avez compris, il est tout seul contre le reste du monde, mais il adore ça.
Mais il y a du poids aussi, du coup.
Simon Dutin, avec comme arbitre, évidemment, Roland Courbis. On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport, et pour l'instant, c'est assez écrasant. C'est en faveur de la team. Oui, c'est un frein.
Ah oui ?
65% contre 35%. Donc la team, non, c'est pas un frein, va falloir vous bouger. Juste avant, on va accueillir Fabrice Hawkins qui est là en direct d'Allemagne. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Salut Fabrice.
Mbappé qui avait annoncé avant l'Euro qu'il voulait laisser son empreinte pendant cette compétition, et pour l'instant on est quand même obligé de constater.
Ouais, il a pas dit quelle empreinte il voulait laisser.
On cherche encore la trace du futur attaquant du Real Madrid, Fabrice.
Oui, le nouveau joueur du Real Madrid est très loin de son niveau habituel. Son bilan après 4 matchs, un but contre son camp provoqué et un pénalty. Et le plus inquiétant, c'est cette impression que dégage Kylian Mbappé, moins explosif, moins rapide aussi. Le capitaine des Bleus tente une explication.
Un attaquant, il doit toujours s'adapter à toutes les situations qu'il a. Je pense que beaucoup de gens font des références au jeu qu'on avait quand je suis arrivé en sélection. Mais on avait des joueurs différents. On avait des joueurs au milieu, par exemple un joueur comme Paul Pogba qu'on n'a plus aujourd'hui. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête, à courir, faire un appel. Tu sais que le ballon, il va arriver dans ton pied. Aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être que on peut moins jouer en profondeur parce que c'est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur.
Kylian Mbappé a cadré 8 de ses 20 tirs seulement depuis le début de la compétition. Comme Antoine Griezmann, il peine à être décisif, mais le numéro 10 des Bleus peut compter sur le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps.
Vous êtes toujours sévère, mais bon, moi je les défendrai toujours, de toute façon, même si je peux leur dire ce que je pense en tête à tête, mais évidemment que pour différentes raisons, mais Kylian et Antoine, oui, ils sont pas au top de ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est pas la même situation, mais malgré cela, on est là. Alors évidemment, les deux sont censés nous améliorer l'efficacité qu'on a pas, mais ils s'accrochent, ils sont dans un groupe et avec au-delà des qualités footballistiques, la force collective, elle est toujours là, même s'il y en a qui ont pris le relais, très bien.
Avant d'arriver officiellement à Madrid, Kylian Mbappé le sait, il sera très attendu contre l'Espagne. À moi de faire ce qu'il faut, disait le buteur vendredi soir. Réponse mardi lors de la demi-finale contre l'Espagne.
Merci beaucoup Fabrice, on te retrouvera évidemment tout au long de la journée, bonne journée à toi en Allemagne. Salut. Avant donc ce France-Espagne mardi, je vous rappelle la question, est-ce que Kylian Mbappé est un frein pour l'équipe de France lors de cet Euro? Pour l'instant, 65% de oui, 35% de non sur X. Simon est le seul à avoir dit oui, donc on va donner la parole à David Douillet qui lui a dit
ah oui, l'enchaînement est magnifique.
Ah oui, ouais. Qui lui a dit non, c'est pas un frein.
Une passe ratée, ça.
Moi, je pense que Kylian, c'est pas un frein contre ses partenaires, c'est un frein contre lui-même.
Ah, donc c'est un frein, alors.
Parce que c'est un frein contre lui-même. Donc je réponds non, pas vis-à-vis de ses partenaires, mais un frein contre lui-même. Parce que, bon, OK, il a pris un pet au casque, hein, comme on le dit de manière triviale. Ça l'a peut-être un peu mis sur le reculoir. Mais je trouve que dans ses déclarations... Déjà, il y a un truc qui m'a sonné l'alerte. C'est lui qui a demandé au coach pour sortir face au Portugal parce qu'il était crevé.
Ouais.
Voilà, ça c'est la première chose. C'est pas un énorme signe. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on parle du passé, et là je reviens sur ce qu'il a dit sur Pogba, tu vois, j'étais plus confortable avec Pogba qui me passait des balles en longueur, etc., etc. C'est qu'on n'est pas dans le présent. Voilà, ça c'est psy, quoi. Tu vois, et un athlète qui est pas dans le présent, ça veut dire qu'il est pas rentré dans sa compète, il est pas dans son équipe et il est pas avec ses partenaires.
D'ailleurs, ouais, donc c'est un frein pour son équipe, quoi.
Quand non, j'ai l'impression que David Douillet est un frein
expliquer que ce n'est pas un frein, en terminant, c'est un frein. David, s'il te plaît, essaye de te concentrer un petit peu.
Mais je suis très concentré, sauf que ma subtilité ne t'atteint pas.
Ah bah, je pense qu'elle n'atteint personne. C'est, en fait. C'est ça le problème. Tu ne t'atteins que toi-même, David, là, sur ce truc. C'est pas possible. À un moment, tu dois courir. Il n'y a pas de finesse. Tu commences en disant c'est un frein lui-même, déjà, ça commence mal. Et ensuite, t'enchaînes en disant il n'aide pas son équipe, etc. Donc à un moment, il est un frein pour son équipe aussi.
Essaye de comprendre la finesse de mes propos. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas, il n'est pas un frein contre le fait que ses partenaires se mettent dans l'excellence. Évidemment que non. Par contre, il n'est pas dans le coup. C'est-à-dire qu'il est en arrière. Il n'est pas présent dans cette compétition. Il a du mal à se concentrer. Il a plusieurs facteurs qui aujourd'hui le mettent en échec. C'est très clair.
Alors, moi, je vais vous donner un argument pragmatique.
Sarah, s'il te plaît, sauve-moi de ça. David, tu préfères ne pas l'avoir dans ton camp, en fait, parce qu'en fait, il te détruit tous tes trucs.
J'ai trois arguments qui aujourd'hui, me font dire qu'en aucun moment, Mbappé peut être un frein pour l'équipe de France. Déjà, il est capitaine, et quand on voit le discours qu'il fait auprès de ses coéquipiers avant la séance de tir au but, il joue son rôle. Il joue son rôle et il explique comment, ce qui va se passer et comment ça va se passer. Donc déjà ça, Mbappé à 50% reste quand même un plus pour l'équipe de France. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même les médias espagnols qui craignent Mbappé, même un Mbappé à 50%. Et la troisième chose, c'est quand il est sur le terrain, il a au moins le mérite de capter au moins deux défenseurs sur lui. Donc ça laisse quand même un peu plus de place pour que d'autres joueurs marquent. Donc rien que pour ça, je ne vois pas comment Mbappé peut être un frein sur le terrain pour l'équipe de France.
C'est le bras de fer, on a le droit de...
Bien sûr, on a le droit de couper.
Si la question, c'est de savoir si il fallait emmener Mbappé à l'Euro ou alors s'il faut le faire jouer contre l'Espagne.
Mais non, c'est pas ça la question.
Parce que je vous dis qu'il a un frein, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire jouer contre l'Espagne ou qu'il ne fallait pas le prendre à l'Euro, on tire le frein à main.
Mais c'est pas ça la question.
Oui, non, mais c'est ça. Donc, on n'en est pas là. Évidemment que Mbappé, on a plus de chances de gagner avec Mbappé dans l'équipe que...
Donc, il n'est pas un frein.
Bah, il a un frein à nos performances. Il a un frein à cause de lui, Didier Deschamps est obligé de changer son système. À cause de lui, Griezmann va finir par jouer arrière latéral.
Mais même avec Mbappé, tu les vois favoris face à l'Espagne.
On met des mecs qui ont des physiques et des caractéristiques d'avant-centre. On les fait jouer ailier parce que monsieur doit jouer avant-centre, parce que monsieur ne défend pas assez ou n'est pas capable de faire les efforts. Ou dit-on.
Parce qu'il est capable à n'importe quel moment de faire la différence aussi. Parce que tu sais que tu es dans l'équipe et effectivement. Pour l'instant, il est nul, mais tu sais que tu es dans l'équipe, il faut aider.
Et c'est un frein tout simplement parce que c'est notre mal alpha, c'est notre top dog, comme disent les Américains, c'est lui qui doit nous faire notre go-to player, c'est le mec qui doit te faire gagner, et il touche pas une cacahuète depuis le début de l'Euro. Donc oui, c'est un frein s'il jouait mieux.
Que Ronaldo,
s'il était meilleur,
que Ronaldo,
il est pas neutre, tu veux pas dire qu'il soit neutre, même s'il est mauvais.
Un frein pour le Portugal, je l'entends, mais pas un Mbappé à 24 ans qui est le meilleur joueur du monde. C'est
on l'a vu, il dit les mecs, c'est juste un geste technique, les tirs au but. Bah, ma grand-mère, c'est pareil, elle comprend pas qu'on puisse rater un tir au but.
Non, mais je suis pas d'accord avec
il répète pas les tirs au but à l'entraînement, ils s'entraînent pas.
Ils se sont pas entraînés.
Comment peut-on rater un tir au but quand on en fait son métier et qu'on est payé aussi cher pour machin? Il y a plein de gens, donc voilà, il leur a juste rappelé, les gars, déstressés. Donc d'accord, heureusement.
Ah, mais t'as fait du sport de haut niveau, Simon, je te le dis. Parce que des fois, les phrases les plus simples, déclenche les choses les plus grandes.
Non, écoute, je trouve que plus sérieusement, je trouve qu'ils vampirisent l'attention médiatique, l'attention populaire.
Mais c'est pas une bonne chose, ça, qu'ils vampirisent justement l'attention, parce que justement tout le monde dit.
T'as l'impression que ça a libéré les autres.
Alors concrètement, ça devrait, en tous les cas, parce qu'effectivement, quand il y a des problèmes en équipe de France, ça veut dire que c'est Mbappé et c'est Griezmann, en gros. Les problèmes de cette équipe de France sont stigmatisés par ces deux-là.
Donc logiquement,
pour les autres, c'est quand même plus simple. Tu as moins de pression et c'est quand même mieux de jouer sans pression. Et en plus, il attire les défenseurs, quoi qu'il en soit. Et on n'est jamais à l'abri qu'il fasse un geste technique de fou. Alors oui, je peux pas dire que ce soit un frein. Je peux pas dire qu'il soit neutre non plus. On peut pas dire qu'il ait fait des grandes choses pour l'instant. On peut pas dire qu'il est bon pour l'instant. Mais il a pas parfois. Ce Mbappé n'a pas besoin d'être bon pour attirer les défenses, pour que ça joue mieux autour de lui, parce qu'il a ses
pouvoirs, mais cette attraction. Toutes les équipes adverses.
Oui, d'accord, mais
donc forcément, ça peut pas être un
frein. Il est craint par rapport à ce pourquoi il est, selon moi, le meilleur du monde, à savoir demander le ballon dans la profondeur, se projeter, aller vers le but, terminer les actions ou faire marquer les autres. Et moi, selon moi, ce rôle-là, il ne le tient plus. Il demande trop souvent le ballon arrêté. Il se voit en créateur, en facilitateur de jeu, en meneur de jeu. Et je trouve qu'il s'est perdu dans une volonté de rendre son jeu le plus éclectique possible, d'atteindre les plus grands noms de ce jeu. Je pense qu'il se voit à l'égal d'un Lionel Messi, d'un Cristiano Ronaldo. Et je trouve qu'il a complexifié son jeu et qu'il en a oublié ce pourquoi il est le meilleur, à savoir court plus vite que les autres, dribble tous tes adversaires, donne le ballon devant le but ou va finir les actions. Et ça, il ne le fait plus en équipe de France. Voilà. Et je trouve que
ce Mbappé là est un frein pour les Bleus. Voilà.
Le Mbappé qui tente de se réinventer est un frein pour les Bleus.
David et après coach.
J'ai une question à poser au coach. J'ai une question à poser au coach parce que il est possible que Didier Deschamps doive prendre une lourde décision, oui ou non, coach. Et la lourde décision serait de constater, malheureusement, que la paire Griezmann-Mbappé ne fonctionne toujours pas pendant la demi-finale et qu'ils doivent réorganiser son jeu autrement par rapport à ces deux joueurs-là. Est-ce que il aura le courage de prendre cette décision que de mettre ces deux joueurs-là sur le banc pour laisser jouer le reste de l'équipe différemment?
Déjà, on ne sait pas si c'est le courage ou justement l'erreur. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Je vous écoute tous les week-ends et c'est toujours intéressant de vous écouter. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux vous apporter un plus, mais je peux vous apporter une question différente qui simplifie beaucoup les choses. À la place de Deschamps, est-ce que pour vous Mbappé serait titulaire contre l'Espagne?
Mais évidemment.
Bah évidemment,
la question se pose même pas.
Oui.
Eh bien alors, il y a plus de débat.
Pas sûr.
Il y a plus de fin.
Il y a quand même un débat dans le sens où l'équipe, comme le disait Simon, a été construite autour de Mbappé. On est d'accord. Donc, et à partir du moment où le joueur autour de qui tu as construit ton équipe n'est pas en forme. Et clairement, lui-même le dit, puisqu'il sort lui-même.
Oui, mais le jeu, cas,
non, je se sort lui-même.
Si, là, ça peut poser un problème. Je peux pas croire.
Excusez-moi, David. Si par exemple on discute d'une certaine façon, ça va être compliqué que l'on puisse se mettre d'accord. Donc moi, Mbappé aujourd'hui, on parle pratiquement que d'Mbappé. Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est pas un frein? Et j'aimerais quand même qu'on parle des petits problèmes que rencontre notre équipe de France. Je vous en donne un. On est tous passionnés, on se prend tous pour, et moi avec, pour le sélectionneur, qui j'aurais mis, qui j'aurais pas mis. C'est très difficile de construire une équipe. Mais aujourd'hui, l'utilisation d'Mbappé, qui en arrive intelligent comme il est, à dire des fois connerie sur connerie dans les interviews. Dernièrement, j'ai entendu l'histoire de Pogba. Je me suis pincé, j'ai dit mais il est sérieux ou pas. Il y a quelques mois de ça, alors qu'il mettait pas un pied devant l'autre, qu'il n'arrivait pas à marquer un but, oui, il a réussi à marquer deux buts contre Montpellier, il se permet de dire à celui qui lui pose la question, est-ce que vraiment vous me trouvez moins bon, moi, etc. Mais pas moins bon, on te trouve catastrophique. Donc malgré ce, tu restes Mbappé, et je vous rejoins dans le sens que un adversaire, une équipe adverse, quand il y a Mbappé, ben, c'est quand même une équipe inquiète, et quand il n'y a pas Mbappé, c'est une équipe qui peut être soulagée. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les deux derniers matchs, demi-finale, en espérant qu'on les fasse, les deux derniers matchs et finale. Mais un Mbappé, attention, même à 50%, ça peut être celui qui va nous faire gagner.
C'est le calcul du reste qu'a fait Luis Enrique plusieurs fois avec le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a montré qu'il était capable, bon, alors, sachant qu'il y avait la projection de la saison suivante, fallait commencer à préparer l'équipe sans Mbappé, mais à Monaco, il le sort à la mi-temps, on a suffisamment parlé du comportement de Mbappé qui est allé dans les tribunes plutôt que sur le banc, mais on a eu l'occasion de voir parfois que lorsque tu as le courage de le sortir, le collectif fonctionne parfois
Mais
un tout petit peu mieux.
Non, je suis d'accord avec toi,
Didier Deschamps, c'est le fameux pragmatisme, tu sais, de Didier Deschamps. De toute façon, quand t'as le poids des espoirs d'une nation sur les épaules, tu prends pas le risque. Bah, tu jettes pas la pièce en disant.
Non, mais alors, moi, je voudrais bien savoir. Et au contraire, tu prends le risque de dire, Mbappé va être bon maintenant.
Et c'est ce qu'on disait.
Si on
peut en terminer, je pense que le sens de l'histoire de ce mec-là, c'est quand même de nous planter un doublé en demi ou en finale de l'Euro alors qu'il n'en a pas touché.
Moi, je voudrais savoir qu'il y a un Français sur Terre qui aurait le courage à la place de Didier Deschamps, le meilleur joueur du monde, de ne pas le faire démarrer face à l'Espagne. Ça n'existe pas.
Le courage ou la bêtise?
Les deux. Le courage ou la bêtise.
C'est pas être courageux de faire une connerie.
Regarde, coach,
à la fin, tu te rends compte que c'est une connerie. En fait, concrètement, si ça réussit, tout le monde dira que c'est du courage. En fait, c'est le résultat qui influe sur la décision.
Attends, si par exemple, on se met à la place de Deschamps et que tu réfléchis à la solution qui te ferait avoir le plus de regrets en cas de défaite, ben ça serait celle de ne pas avoir mis Mbappé.
Sauf que tu ne mets pas et tu gagnes, et tout le monde dira c'est du génie.
Oui, mais dernièrement, et la passion, des fois, à nous tous, moi avec, ça nous fait dire des conneries. Quand il y a eu la séance de tir au but, je l'ai regardé avec des amis, et quand Hernandez se retrouvait avec le cinquième
le tir au but de la qualif,
et qui le marque, j'ai entendu lui il a pas fait comme Mbappé. Mais il faut être con pour dire un truc comme ça, et moi certainement j'en dis aussi des fois des conneries. Mbappé, quand il rate le pénalty contre la Suisse, il tire en cinquième position, un pénalty qu'en cas d'échec, tu es éliminé. Hernandez, s'il rate le pénalty, il n'est pas éliminé.
Ça change beaucoup de choses. Pour moi, ça change tout.
Et Luis Enrique qui ne le fait pas jouer à Monaco, c'est pas un match couperé. Est-ce que Luis Enrique aurait eu... Il aurait pu le mettre en finale de la Coupe de France. Jamais il aurait pris le risque de ne pas mettre Mbappé alors qu'il a une équipe à construire pour l'année prochaine. Christophe va venir à ton aide, Simon.
Coupe du Monde 2022, le Portugal, ils ont un match de poule décisif à jouer contre la Suisse. S'ils ne gagnent pas, ils sortent. Fernando Santos, il a mis Cristiano sur le banc.
Mais Cristiano, il a quel âge?
Non, mais attends,
regardez. Avec autant de kilomètres qu'il a fait avec Mbappé.
Roberto Martinez, il n'arrive pas à le sortir de l'équipe. Cristiano sur le banc, l'autre il fait la gueule devant en Mondiovision. On a un Gonzalo Ramos que personne connaît. Il prend un risque énorme. Gonzalo Ramos triplé, le Portugal passe. Voilà, ça peut marcher. Mais Didier Deschamps doit-il le faire? Non. Didier Deschamps va-t-il le faire? Non.
Et autre question, Didier Deschamps va-t-il sacrifier Griezmann pour Mbappé? C'est une autre question.
Non, mais on pourra aussi se poser.
Ça, c'est une vraie question.
Excuse-moi.
Ne pas laisser la parole à Christophe.
En ce qui concerne le cas Mbappé, que ça nous empêche pas, à nous passionner, de regarder un petit peu ce qui me paraît être bizarre. Je t'en donne une de bizarrerie, je sais pas si c'est français. Colomani et Thuram, ça me donne l'impression que ce sont deux gentils garçons, combatifs, machin, etc. Mais si tu m'expliques qu'en football, dans l'intérêt de notre équipe de France, ces deux joueurs-là sont meilleurs que Dembélé et Barcola, eh bien, pour moi, je ne discute plus de football.
Christophe, 10h26 en direct dans Les Grandes Gueules. Salut Christophe.
Ah, bonjour tout le monde. Ah, bonjour coach.
Bonjour.
Je suis très grand fan. Mais ça n'empêche que des fois coach, tu te trompes.
Mais j'espère. Sinon je m'inquiéterai moi-même.
Le pénalty contre la Suisse. Lui, il tire Mbappé le cinquième pénalty. Oui. C'est juste pour la gloire personnelle. Ça, c'est mon avis. Non. Mais lui, c'est juste pour se choper la gloire. En fait, le problème qu'il y a, c'est que Kylian Mbappé, il a pris le pouvoir en équipe de France. Deschamps, il ne peut même plus rien dire. C'est lui qui décide quand il sort. C'est lui qui décide qui va rentrer, presque. Il y a un moment donné, en fait, il n'est plus à sa place. Et donc, ça, c'est pas bon pour le groupe.
Ouais, mais des joueurs de ce niveau-là, ça arrive très souvent qu'ils prennent le pouvoir dans n'importe quel sport.
Puisque j'ai l'impression.
Quand il prend le pouvoir, quand il revient avec Makelele, on va en finale. Et ok, sauf que Zidane, il a une certaine humilité et il a une intelligence du jeu. Il y a une sacrée différence entre les deux situations, quand même.
Mais il y a aussi une différence entre les deux joueurs aussi. Je veux dire,
ils n'ont pas les mêmes caractéristiques.
Et puis, Zidane n'a pas joué à la même époque que Mbappé aujourd'hui. C'est pas
un problème d'époque, c'est un problème d'état d'esprit. L'état d'esprit de Zidane, il jouait pour le groupe. Il est revenu pour un groupe. Il n'est pas venu pour la gloire. Mbappé, il joue plus pour le groupe depuis longtemps.
Oui, mais ça, c'est une question d'époque aussi. Hein. On est beaucoup plus individualiste dans cette époque qu'à l'époque de Zidane.
Quand vous écoutez sa conférence de presse, quand il dit « le milieu de terrain que j'ai, les joueurs que j'ai... »
Oui, c'est vrai, il y a des maladresses, là on s'accorde.
Non, c'est pas des maladresses. En fait, quand il fait comme ça, ce sont pas des maladresses, c'est juste qu'il révèle sa vraie personnalité.
Mais c'est vrai que la sortie sur Pogba, l'absence de Pogba, c'était pas dingo non plus.
C'est catastrophique pour le groupe. Mais les mecs, ils vont péter un câble à côté.
Je veux pas croire que Didier Deschamps n'ait pas suffisamment de personnalité face à Mbappé, c'est pas vrai.
Je parle pas de personnalité, il a pris le pouvoir partout.
Il a pris où on lui a donné.
Merci beaucoup Christophe en tout cas d'être passé, et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Tu es venu donc en aide à Simon, même s'il avait pas besoin d'aide.
Pour le sondage en tout cas.
C'est l'équipe, effectivement. Mbappé est-il un frein pour l'équipe de France? Oui, qui s'en pose. 65-35. Vous n'avez pas réussi à inverser la tendance, les amis, malgré l'apport de coach que l'on va remercier. Merci beaucoup.
Ben écoute, j'espère qu'on constate aussi que dans les quatre dernières équipes, il y a tout simplement trois favoris du départ: Espagne, Angleterre, France. Donc finalement, dans les pronostics, on n'était pas bidon.
C'est un des pires euros de l'histoire en termes de jeu, et pourtant t'as un plateau en demi avec quatre belles affiches.
L'équipe de France, on en reparle à 11h30 dans Les Grandes Gueules du Sport. Que retenez-vous des Bleus? La solidité ou l'inefficacité? On vous attend aussi comme Christophe au 32-16 pour en parler. On vient tout de suite avec la punchline. GG, on va parler tennis, restez avec nous.
RMC jusqu'à midi, Les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Il est 10h33, vous êtes de retour dans Les Grandes Gueules sur RMC jusqu'à midi. David Douillet, Simon Dutin, Sarah Pitkovski, Fred Weiss. Dans 15 minutes, ça sera le zapping des GG. Avec notamment, on va parler de la victoire de l'équipe de France de basket hier en prépa des Jeux avec un grand Wemby, un grand Wembanyama, sous le regard de Fred Weiss qui se marre déjà. Faudra pas rater ça, évidemment. Mais d'abord, c'est l'heure de la punchline, GG, et elle est signée aujourd'hui Giovanni Mpeci Pericard. Si vous connaissez pas son nom, va falloir apprendre à le connaître. Le Français de 20 ans s'est qualifié hier pour les 8e de finale de Wimbledon, et il doit déjà apprendre à gérer sa nouvelle notoriété.
RMC, la punchline GG.
Forcément, ça fait plaisir de voir énormément de gens m'encourager, me soutenir, me pousser dans les moments un peu plus compliqués. Après sur les réseaux, je regarde pas trop. Voilà, je parle toujours à la même bande de potes. C'est même pas moi qui gère mon Instagram, donc je regarde pas trop. Quand j'ai joué tout à l'heure, je trouvais qu'énormément de gens m'ont soutenu, et franchement, ça fait du bien. C'est comme si on se sentait à la maison.
Giovanni Pecci Péricard, interrogé hier après sa qualification. On accueille Eric Salio qui suit Wimbledon pour RMC. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric. Salut. Tu vas nous accompagner pendant ce débat. Giovanni Pecci Péricard qui affrontera l'Italien Musetti en 8e après sa victoire en 4-7 face à Ruusuvuori, le Finlandais. On note aussi au passage la qualification d'Arthur Fils et d'Hugo Humbert qui seront aussi en 8e de finale. Mais c'est vraiment le jeune Lyonnais qui crève l'écran avec ses aces à 210 km/h de moyenne. Alors cette question, les grandes gueules, faut-il s'enflammer pour Pecci Péricard? Oui ou non? David?
Non, pas encore.
Fred?
Oui.
Simon?
Il a l'air ravi. Non.
Sarah?
Plutôt oui.
Eric?
Bah, je vais pas dire non, je suis sur place, moi j'y crois. Je côtoie, j'y crois, ouais, il a un truc en plus, oui. C'est notre Wemby, voilà, c'est notre Wemby.
Alors calme-toi un petit peu.
Il a un petit truc en plus.
Alors pourquoi non, Simon? Pourquoi faut pas s'enflammer?
Parce que c'est un pisse-croix, Simon,
ouais,
c'est ça le problème.
C'est
que dès que ça joue bien, ouais, il aime pas ça. Dès qu'il y a un tennisman qui a des aces comme ça, qui joue aussi bien, qui a autant de confiance, et ben il s'enflamme pas, lui. C'est ça, c'est un pisse-croix.
Voilà, exactement. parce que c'est un joueur de tennis français.
Et qu'il aime pas le tennis en plus, et voilà, il y a plein de choses qui vont dire ça.
Français, qui gagne 50 points par match avec un seul coup de raquette. Alors, je veux bien qu'il nous explique que son jeu ne se résume pas à des aces. Et, pour avoir été un immense fan de Goran Ivanišević, ce qu'il a parlé à Eric Salio, à vous tous, ici, oui, c'est très réducteur de réduire de considérer que quand t'as un service aussi efficace que cela, ton jeu se résume à ça. Bon, voilà, encore une fois, on est à Wimbledon, surface sur laquelle, je parle sous le contrôle de Sarah et Eric, le service est une arme absolument létale, bien que les Djokovic, Alcaraz, Nadal nous aient prouvé que, faut aussi avoir une main, un poignet pour exister sur gazon. Bon, voilà, j'ai répondu non parce que voilà, doucement.
T'a mis le couteau sous la gorge.
Non, mais je veux dire voilà. C'est...
Parce qu'on t'a mis le couteau sous la gorge.
Encore une fois, pensé oui, t'avais envie de dire non pour dire l'inverse de non.
Écoute, non, ça c'est David.
Ah, c'est David, pardon, c'est vrai.
Avec David. Non, mais encore une fois, si samedi prochain on parle de ce jeune homme dans les grandes gueules, voilà, je.
Oui, parce que ça voudrait dire qu'il serait en finale.
Je mangerai mon chapeau et voilà, non, mais.
Ah, on a hâte de voir ça, David. T'as dit non aussi, toi. Tu es d'accord avec
ouais, non,
Simon, faut pas s'enflammer.
Ouais, faut pas s'enflammer. Moi, je m'enflammerais quand il bat un Djoko, par exemple, tu vois. Voilà. Là, je m'enflamme. Je m'enflamme s'il bat Alcaraz, s'il bat un gros, gros poids lourd. Voilà.
Tu t'enflammes pas souvent, quand même, hein, David, parce que battre Djoko.
Ben non, justement. Ça, je me suis jamais enflammé. Là, ça fait des années. Ça fait des années que je me suis pas enflammé, malheureusement, pour un Français dans le tennis mondial, voilà, c'est tout. Et je vais de déception en déception, donc voilà, j'en ai marre d'être déçu. Et c'est très bien. 20 ans, 21 ans, bientôt lundi, c'est top. On a deux gamins avec Arthur fils qui sont là. Et c'est très bien pour il y a peut-être un renouveau du tennis français, mais je suis pas encore enflammé.
Voilà, mais
j'ai pas d'autres arguments à vous donner.
Qu'il batte Musetti, commençons par là. Et voilà, ce sera déjà beau.
Non, mais il faut se rappeler quand même de l'histoire. Il était à deux doigts de partir. C'est un lucky loser. Arrive et qu'est-ce qui se passe directement? Il est serein, il joue super bien. Alors oui, effectivement, il a un service qui va très vite, il fait des aces. Oui, ceux qui quand ils montent au filet, il a un très bon pourcentage aussi. Il a un coup droit exceptionnel. Il a confiance en lui. Il joue bien.
J'ai envie mais comme tous les autres.
Moi, j'ai pas envie d'être David Douillet un jour dans ma vie. J'ai envie d'être heureux, de prendre du plaisir, d'être enfin satisfait du tennis qu'on voit. Alors oui, il y a Fils, lui, il y a Louis. Moi, je suis ravi. Alors, je sais pas si ça va s'arrêter. Effectivement, pour l'instant, il a pas fait une des pertes exceptionnelles. Mais c'est comme le quatrième français à être en huitième de finale sur son premier Wimbledon. Les gars, soyons aussi contents de ton temps, soyons un petit peu enthousiastes. Et moi, je suis ravi.
Les stats, ça a jamais fait naître des champions.
Et en plus, Sarah, qui connaît le tennis, elle est d'accord avec moi.
Oui, alors moi, avant de leur laisser la parole, moi, je voudrais demander à Eric et Sarah, justement, si on parle beaucoup de sa taille, de son service, ok, quand t'as un service qui tombe d'aussi haut, c'est quand même un peu plus facile d'aller terminer au filet. Moi, je voudrais savoir s'il a vraiment, ce gars-là, une main, un poignet, un peu de flair, qui le fera exister ailleurs que sur gazon.
Avant que Sarah réponde, je voudrais Interrogez Eric là-dessus. Tu peux répondre à Simon,
oui,
parce que
bah
tu le vois
je
tous les jours
que
de très
Simon
près.
Simon ne l'a jamais vu jouer. Ça crève les yeux. Ce garçon a déjà gagné un tournoi ATP 250 sur terre battue.
Et c'est là. le premier tournoi ATP, c'est sur terre.
Ça doit lui faire vivre sa bouche à Simon.
oui, mais c'est pas facile pourtant.
Ouais, je sais, mais bon, il faut voir les choses.
On est là pour l'ouvrir aussi, hein.
C'est vrai.
C'est un garçon. ATP 250, c'est les. Ouais, c'est ça. Il y avait Djoko, il y avait Sinner, il y avait tout le monde, hein. Bon. Ils étaient tous là.
Il mesure 2m03, il pèse 100 kilos. Vous allez me dire, il n'arrive pas à se déplacer. C'est faux. Il se déplace merveilleusement bien. Il a une main. Il volaille remarquablement. Et puis, moi, je parie sur l'avenir. Je vous dis pas qu'il va soulever la coupe dimanche prochain. Non. Mais c'est un garçon, quand il va se présenter à Wimbledon les prochaines années, il fera partie des favoris. C'est évident. Okay,
La question, c'est, on demande si on s'enflamme. Est-ce que tu t'enflammes?
Mais on s'enflamme. Si bientôt, il fera partie des favoris, David.
Ah. Non, mais s'enflammer, ça veut dire, est-ce que ça nous réjouit? Est-ce que ça me réjouit?
Pour aller très loin.
Mais moi, ça me réjouit. Je suis très heureux. Je suis content, mais je suis pas enflammé, quoi, tu vois. Voilà. Je regarde le tableau, ça fait des transferts.
On est sur de la sémantique. Aujourd'hui.
Bah oui.
Aujourd'hui, Giovanni Mpeci Pericard, de ce qu'il démontre sur le terrain, revêt beaucoup de promesses pour le tennis français. Il va avoir effectivement 21 ans demain. Il est dans les standards de nos meilleurs joueurs français, de ce fameux Quator qu'on avait appelé les Mousquetaires.
On l'a entendu 10 fois.
Mais parce que cette génération qu'on a eue, on ne se rend pas compte, ça a été une chance énorme. Ils sont tombés dans une génération où, pendant plus de 15 ans, ça a été complètement cannibalisé par trois monstres, mais trois monstres qu'on ne retrouvera plus jamais. Et aujourd'hui, Giovanni a un potentiel de top 20, peut-être voire top 10, avec le physique qu'il a, avec le déplacement qu'il a. Alors évidemment, de toute manière, pour être un excellent poète, le meilleur du monde, il faut des énormes forces. Il faut des grands coups. Si tu n'as pas des grands coups, tu vas être top 20. Il a des grands coups, il a un énorme service et il a un énorme coup droit. Voilà, ça, ce sont ses forces. Donc, il a des atouts pour monter au plus haut niveau.
Il est encore très jeune.
Pour l'instant, quand tu le vois jouer, il y a quand même une forme de froideur et de détachement qui est très rassurant pour un jeune de 20 ans, 21 ans.
Sarah, qui tient sur les 5-7. Parce que tu parles du top 10, du top 20. Mais on parle pas de ça. On a envie d'un joueur qui soit dans le top 5, tu vois, et qui soit en passe de gagner.
Si on signe tout de suite, on a quelqu'un dans le top 10.
Mais sinon on n'y arrivera jamais.
C'est pas avec des raisonnements minimalistes.
Attends, le top 10, pour moi, c'est des températures, ces chiffres-là, c'est des températures, c'est pas le haut niveau. Le haut niveau, tu cherches la première place, tu cherches.
Donc tu veux dire que top 10, c'est le haut niveau du tennis?
Ouais, mais on est dans un sport ultra concurrentiel.
Mais si, c'est au niveau. Mais moi, ce qui m'enflamme, c'est ça. C'est ce qui m'enflamme, c'est si tu m'avais dit, ce gars-là, il peut être numéro un mondial. Là, tu me fais vibrer. Mais tu me parles du top 10, du top 20. Mais excuse-moi, c'est à pleurer.
Ça fait des années qu'on parle de Wimbledon. Il va gagner Wimbledon un jour. Ça t'enflamme.
Là, c'est bien.
Merci, Eric.
C'est bien, Eric, c'est que tu seras à la retraite à ce moment-là. T'auras pas à te justifier.
Ne crois pas ça, Sarah. Ça peut venir très très vite. Quand tu gagnes tous tes jeux de service sur herbe, t'as quand même une bonne chance, sur une herbe
qui n'est pas la même herbe du temps de Goran Ivasinevic. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, l'herbe était tellement rapide que tu n'avais aucune chance.
Bloque deux heures de ton temps et regarde le match contre Musetti. Et après, on en reparle.
Mais Eric, il n'y a pas de problème. Tu m'as allumé, évidemment. Je n'ai vu que des résumés de ces matchs. Je n'ai jamais vu un match entier. Vous m'avez, d'une part, donné envie de suivre ce jeune homme et vous m'avez fait comprendre qu'il ressemble quand même un peu plus à Ivasinevic qu'à Karlovic. C'est quand même plus prometteur
que Karlovic, Isner et même
Ivanisevic. Isner et même Raonic, c'est beaucoup plus complet que ça.
C'est la question que je vous posais.
Eric, on va te remercier, mais on va suivre évidemment Mpeci Pericard aujourd'hui. Ça sera demain, c'est ça. Il y a Arthur Fils aussi.
Il y a Hugo Humbert à 14h30 sur le central contre Alcaraz.
Bon, on n'y croit pas trop.
Mais si, on y croit.
Il y a eu une alerte.
Non, on n'en croit pas tout non plus, parce que sinon, tu deviens plus crédible.
Il va gagner un Wimbledon quand, Hugo Humbert.
Vous êtes des mauvais coups.
Écoute, on peut avoir une finale franco-française cette année. Oui, c'est possible.
Bon, merci en tout cas, Eric. Et à très bientôt. On va t'écouter aujourd'hui pour parler de ces Français à Wimbledon qui vont continuer de nous enflammer. On continue de s'enflammer avec le basket dans un instant. Fred Weiss, on va parler de Wembanyama. On s'en fout pas. C'est le zapping, restez avec nous.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h48, vous écoutez RMC, les grandes gueules du sport, jusqu'à midi. Dans un instant, on va passer la seconde pour suivre le rythme des coureurs du Tour de France. Où sont les échappés au long cours, les attaquants courageux qui roulent pendant des centaines de kilomètres? En gros, est-ce que ce début de Tour de France vous ennuie? Christophe Cessieux rejoindra la bande des GG composée aujourd'hui de David Douillet, Simon Dutin, Sarah Pitkowski et Fred Weiss. Mais d'abord, vous l'avez entendu ce petit coq, c'est le moment maintenant de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024, le voyage à Berlin, la rencontre avec les équipes RMC et vos deux places pour assister à la finale de l'Euro 2024. Ça sera dimanche 14 juillet à 21h. Vous avez 5 minutes pour envoyer dès maintenant Euro au 7 32 16. Euro au 7 32 16. Allez, jusqu'à 10h55. Bonne chance à tous.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Vous connaissez le principe, plusieurs infos de la semaine à vous donner et même d'hier. Si ça vous intéresse, vous pouvez commenter. Sinon, vous passez votre tour. On va commencer par Wembanyama qui bat son record de points en bleu hier en prépa face à l'Allemagne. C'est du basket. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas, mais je vais laisser Big Fred nous en parler.
Peut-être qu'il s'en fout. Hein. Sarah Pitkowski.
Ce serait bien.
Tout pareil que Simon, enfin.
David Douillet.
On s'en fout pas, mais je vais laisser le président du club descendre parler.
Ça t'intéresse?
Un peu.
Wembanyama, juste, qui a encore été associé à Rudy Gobert face à l'Allemagne, qui a inscrit 25 points, avec en plus 5 rebonds et 3 passes dans ce match. C'est un record pour lui avec les Bleus.
Oui, ce garçon est juste fantastique. Quand il est arrivé en FIBA, on sait que la FIBA, il joue en NBA maintenant, et il a passé une saison de rookie où il a été rookie de l'année, évidemment. Mais quand on revient en FIBA, parfois c'est difficile parce que le terrain est plus petit, parce que les aides sont plus difficiles. Il y a plus de personnes dans la raquette. Enfin, concrètement, défensivement, c'est plus difficile de scorer. Et Wembanyama est juste un extraterrestre.
C'est-à-dire qu'il s'adapte.
Il s'adapte à tout. Il sait tout faire. Ils ont déjà trouvé une relation. Alors, beaucoup diront que les matchs qu'ils ont eus, c'était des matchs faciles. C'était la Turquie et l'Allemagne, mais l'Allemagne amputée des frères Wagner, par exemple, qui sont dont un est un pivot.
Et Schröder était là, je crois.
Schröder était là, oui. Il y a eu une petite altercation avec Evan Fournier, un petit peu abusé d'ailleurs. Mais ce joueur est fantastique. Ce joueur est incroyable. Je peux comprendre la passion qu'il déchaîne parce que quand on l'a vu jouer une fois, on s'en rappelle toute sa vie. Il est long. Il bouge vite. On parlait tout à l'heure d'un joueur de tennis de 2m3. Il fait 2m22, 24, 26 peut-être, parce qu'on l'a vu à côté de Rudy Gobert.
Gobert a l'air petit.
Il a l'air tout petit. Je n'ai pas les mots. Je n'ai jamais vécu ça. Il est français.
D'accord.
Il domine tout le monde. Ce n'est qu'un passage, hein, 25 points. La prochaine fois, il mettra 30, 35, ouais. 40. Je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrêtera, parce que personne ne peut l'arrêter dans le monde.
Okay.
Je le dis vraiment, personne ne parle dans le monde.
Là, on s'enflamme. Voilà. Là, on s'enflamme. Là, là, les matières à s'enflammer.
Mais oui, et un judoka de plus de 100 kilos, ça enflamme aussi.
Oui, ça s'enflamme toujours.
Allez, on va passer à cette info. Trois Anglais en tête sur la ligne de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est cet après-midi à 16h à suivre sur RMC. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout.
Fred Weiss.
On s'en fout, j'ai tout donné sur le basket.
Sarah Pitkowski.
Non, mais là, je peux pas tout regarder, donc là, je m'en fous royalement.
Et David
Douillet.
Moi,
je m'en fous pas.
Ah, tu t'en fous pas. George Russell, non. Vainqueur en Autriche la semaine dernière. Meilleur temps des qualifs pour lui. Il sera en pole position à Silverstone devant son coéquipier Lewis Hamilton et devant Lando Norris, le pilote McLaren, lui aussi britannique. Verstappen est quatrième, David.
Bah, là, est-ce qu'on est en train de voir la bascule s'opérer entre l'hégémonie des Red Bull versus les Mercedes et surtout les McLaren? Voilà, c'est ça en fait l'idée. On le sentait venir dans les deux, trois derniers Grands Prix, et là, on commence à sentir la bascule, voilà, tranquillement. Mais sûrement, les voitures se mettent de mieux en mieux au point. Et là, pour avoir vu le sourire Toto Wolff lorsque les deux McLaren, les deux, pardon, Mercedes. Les deux Mercedes, on fait le meilleur temps avec Russell et Hamilton. On peut noter que voilà, il y a une petite bascule du championnat. Alors, est-ce que ça suffira pour que Verstappen soit remis en question au niveau du titre mondial? C'est pas sûr, parce qu'il a quand même beaucoup d'avance. Mais malgré tout, c'est intéressant. Mmh. Ça remet du sel et du piment dans ce TF1 qui en manquait un petit peu ces dernières années.
Et ça sera à suivre à 16h, vous l'avez compris, sur RMC, ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et puis on a parlé de France-Espagne, on va quand même dire que l'autre demi-finale mercredi opposera l'Angleterre aux Pays-Bas. On s'en fout pas, Fred Weiss.
On s'en fout, je suis tout donné sur le basket,
David Douillet.
Ouais, je m'en fous là.
Sarah Pitkowski.
Oula, le air zapping.
Ouais, il est là.
Il est là.
Simon Dutin.
Non, on s'en fout pas.
Bah oui, l'Angleterre a sorti la Suisse au tir au but. Les Pays-Bas ont battu la Turquie 2-1. Deux équipes qui se retrouveront mercredi. Les Anglais ont encore eu du mal, mais ça passe. Le déchant anglais, c'était hier. Gareth Southgate, on l'écoute.
Je suis désolé pour ça. Notre intention a toujours été de bien jouer. Mais il y a un adversaire qui veut nous stopper. Ce n'est pas qu'un simple match de football, c'est un événement national, avec beaucoup de pression sur deux jeunes. Soumise à une énorme pression depuis le début, mais on s'en sort très bien, vraiment très bien. On est sur notre troisième demi-finale en quatre tournois, c'est une très belle performance, mais il ne faut pas que ça s'arrête là.
Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, Simon, passionné par cette équipe anglaise, évidemment.
Oui, dont je suis tombé amoureux en 1990, j'avais même pleuré lorsqu'il
avec Gary Lineker, était
Lineker, hein, Gascoigne, Waddle, David Platt, bon, tous les autres. Les Anglais sont toujours favoris et puis le football ne rentre jamais à la maison, comme ils disent. Football is coming home, ils disent avant chaque tournoi. Bon, ils attendent. Ils étaient finalistes de la dernière édition. Southgate le rappelle, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est en 2018, je crois. Ils sont demi-finalistes. Bon, bref, t'as raison de dire que c'est le déchant parce qu'il en prend plein la tronche, le Southgate. Mais bon, il les emmène à des altitudes où ils n'avaient plus l'habitude quand même d'aller, même si eux non plus, tu le soulignais, ils n'ont quasiment rien montré. Ils sont miraculés contre la Slovaquie avec une bicyclette de Bellingham qui touche pas une cacahuète depuis le début du tournoi après une saison fantastique au Real. Mais voilà, quand tu vois le réservoir qu'ils ont, c'est...
Ils sont favoris?
Son favori quand les Pays-Bas, a priori oui, mais je pense que dans le jeu les Pays-Bas ont été un peu plus intéressants que les Anglais. Donc le sens de leur histoire, c'est d'être favori et puis de sortir en demi. Ouais.
Très beau zapping, Sarah. En tout cas, merci beaucoup. 10h55, on revient tout de suite dans les grandes gueules pour les GG qui passent la seconde et qui vont suivre les coureurs du Tour de France. Aujourd'hui, étape inédite sur le Tour, sur les fameux chemins blancs. Ça a peut-être réveillé tout le monde parce que certains se sont endormis cette semaine lors de certaines étapes. Est-ce que ce Tour de France, ce début en tout cas, vous ennuie? On en parle dans un instant avec Christophe Cessieux qui nous rejoint. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.